Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant.
Tous les premiers et troisièmes dimanches du mois.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque au racisme, aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur, pas de l'alu, que de la lutte.
De 12h30 à 14h
sur Kaleidoscope
97 FM
et en podcast
sur letamis.info.
Bonjour, ça fait plaisir d'être de nouveau sur le plateau de Micro-ondes, cette émission qui nous tient à contre-courant sur 97 FM ou sur radio-kaleidoscope.net, d'où que vous nous écoutiez. Au programme aujourd'hui, un sujet crucial, le logement. Il sera abordé plus spécifiquement sous l'angle de la rénovation urbaine. Et pour être plus précise encore, sous l'angle de l'un de ces nombreux projets de rénovation urbaine qui sont largués sur la tête des habitants des logements très sociaux, si proches du cœur de la ville que ces espaces attirent maintenant. Et donc, ils sont largués comme ça, ces projets de rénovation urbaine, avec pour seul message, c'est pour votre bien, on s'occupe de tout. Et pour être encore plus précis sur ce qu'on va aborder aujourd'hui, il sera question aujourd'hui de la lutte contre la démolition du 10-20 Galerie de l'Arlequin à Grenoble, avec Abdel et ses invités, des habitants en lutte et puis des associations sur le pied de guerre. Et puis il y aura aussi de la musique, des brèves, un agenda. Mais tout de suite, Abdel, ses invités, on fait connaissance ?
Comme tu veux, si tu veux faire connaissance, c'est parti. Aujourd'hui, nous avons un super plateau. Avec des locataires, à savoir Virgile et Felipe, du collectif des habitants contre les démolitions. David, de l'APU, atelier populaire d'urbanisme.
Urbanisme, bonjour.
Merci David.
Bonjour.
Et Raph, du DAL, qu'on ne présente plus.
Salut, salut.
Salut. Droit au logement. Merci Raph. On attaque le sujet tout de suite.
Attaque.
Jeanne. Ah, d'accord, attends. Donc, rapidement au passage, Yvon qui devait animer cette chronique avec nous est malheureusement malade, on le salue.
Prends soin de toi.
Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, le droit à un toit est attaqué de toutes parts, au niveau national et local. Et malgré la pénurie de logements à prix accessible, le gouvernement réduit encore les moyens des bailleurs sociaux. À Grenoble, cette pénurie se traduit par une hausse des loyers. Beaucoup de personnes sont à la rue. Ou en squat, alors que de nombreux logements restent vides. Sur Villeneuve, par exemple, c'est un ensemble d'habitats qui est prévu pour 20 000 habitants. C'est logé et c'est habité par 12 à 14 000 habitants. Donc il y a un vaste choix de logements vides encore. Et malgré la situation catastrophique, la préfecture et les villes de l'agglo ne prennent pas la mesure de l'urgence. Pire, leur principale réaction est d'intervenir violemment contre les occupants des logements vides. Et c'est le moment choisi par le maire de Grenoble et ses partenaires, à savoir l'ANRU et SIC Habitat, pour décider la démolition de logements sociaux. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un joli plateau pour parler de tout ça. On va commencer, si vous le voulez bien, avec le collectif des habitants contre la destruction des logements. À savoir Virgile et Felipe. Comment ce projet vous est tombé sur la tête? Qu'est-ce que c'est que ce projet en rue? Et comment vous l'avez vécu?
Bonjour Abdel, bonjour tout le monde. Moi c'est Virgile. Donc je fais partie du collectif contre les démolitions et je suis le représentant de l'association des résidents du 10-20 Galerie de l'Arlequin. On a lancé un combat en fait sur le contrôle de charge lors de la vente de notre immeuble. Donc le 10-20, c'est un seul immeuble qui a été vendu en 2014 à un nouveau bailleur social sociaux qui n'était pas sur le quartier jusque-là, sur l'Arlequin, SIC Habitat. Lors de cette vente, on a essayé de comprendre comment fonctionnait l'immeuble et on s'est rendu compte que les bailleurs ne faisaient pas leur travail de contrôle de charges et étaient incapables de justifier les charges payées par les locataires. On conteste plus de 107 000 euros sur 2 ans et demi et on n'arrive pas à avancer. On trouve que les bailleurs sont intouchables et arrivent à à facilement nous emmener aux prescriptions et à nous endormir. C'est très difficile, le combat est difficile. En 2016, malgré des promesses, donc lors de ce rachat de l'immeuble par SIC Habitat, des promesses de réhabilitation qui étaient faites par l'ancienne mairie et les bailleurs, en 2016, le nouveau maire, Piol, nous a clairement dit de nous asseoir sur ces promesses qui nous avaient été faites et que c'était lui, le chevalier, qui faisait tout bien. Déjà, comment le croire si les paroles des élus n'ont aucune valeur avant lui? Pourquoi sa parole à lui aurait plus de valeur? Et comment refaire croire aux habitants, en particulier des quartiers populaires qui ne croient plus du tout dans les politiques, avec de tels discours et de telles façons de faire? Le problème de démolition, c'est une chose, mais il y a aussi le problème de respecter le droit des locataires. En particulier, le fait qu'on a des bails, c'est des contrats. On veut bien qu'il y a des intérêts financiers au-dessus de nous, mais ça n'empêche pas de payer le déménagement et de respecter les droits, de minimiser l'effort sur le loyer fixe. On ne sait jamais, demain, il peut y avoir les suppressions des APL, ça peut poser des problèmes demain. Donc tout ça, ce n'est pas fait. Nous, on a plus de 130 locataires au 10-20 qui ont déménagé, qui n'ont même pas touché de déménagement, ni les compteurs, enfin qui n'ont rien touché du tout. En gros, ils ont été manipulés, on leur a fait signer une demande volontaire et après on dit que c'est eux qui ont voulu partir. C'est ça, c'est scandaleux. Il y a des bails d'avant 80, il y a des choses et les gens sont manipulés et leur droit n'est pas respecté. Ça se reproduit sur le reste du quartier. En ce moment, ils sont en train de vider le 60 galeries de l'Arlequin et on n'a pas entendu parler de charte de relogement.
Excuse-moi, Virgile. Là, si je comprends bien, tu nous parles du projet en rue, si j'ai bien compris. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet en rue, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. C'est quoi? Ça consiste à démolir pour réhabiliter? C'est quoi l'idée?
L'ANRU, c'est des projets au niveau national. Ça a commencé à peu près en 2008. C'est des projets de réhabilitation des quartiers. Donc c'est un peu, je pense, mélangé parce que c'est national. Donc c'est basé sur certaines expériences dans certains endroits. Donc on parle de quartiers isolés des villes ou de choses comme ça, ce qui n'est pas du tout le cas, nous, à la Galerie de l'Arlequin, où on est en centre-ville, à côté du tram, tout ça. On est une ouverture de la ville. L'ANRU, c'est des énormes projets et surtout maintenant qui financent les démolitions à 90%. Ils financent pas grand chose dans la réhabilitation des logements, 10%, voilà. Donc, ils sont pris toujours en. Comme quoi, c'est eux qui imposent les démolitions et que c'est eux qui imposent ces politiques sur les quartiers. Parce que, en fait, dans les démolitions, financièrement, il n'y a aucune logique. Nous, au 10-20, réhabiliter les logements comme ça aurait dû être le cas depuis longtemps. Les bailleurs auraient dû entretenir le clos et le couvert, c'est ce qu'ils doivent légalement à leurs locataires. Ça coûte moins cher que la démolition. Donc, on ne comprend pas. C'est aberrant d'emmener des projets qui n'ont aucune valeur financière.
Et ces projets qui arrivent comme ça sur le 10-20, par exemple, ils ont été faits en concertation avec vous, les locataires, ou comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé à vous?
Je suis Felipe.
Ouais.
Alors la concertation, elle a pas été, on va dire qu'ils disent qu'ils l'ont faite. Mais généralement, ils ne l'ont pas faite comme il faut. Parce que nous présenter à l'espace 600 un PowerPoint, un truc comme ça, c'est pas suffisant parce que sur le nombre de personnes qui viennent, il y en a quoi? Il y en a une cinquantaine. Et
une cinquantaine sur combien de locataires vous êtes dans ce hall?
Je sais pas combien il y en a. Il y en a
plusieurs centaines.
Donc c'est pas suffisant pour avoir une vraie concertation.
Et c'est pas un débat. On vous affiche un PowerPoint, on vous dit voilà quelles sont les idées. D'accord, voilà. Donc, en termes de concertation, c'est un peu léger, effectivement.
C'est ça. Moi, je dis que ce n'est pas de la concertation, parce que jusque-là, il faisait des promesses de réhabilitation, et tout d'un coup, en décembre 2016, hop, tout d'un coup, il y a une démolition. Mmh. On ne nous a pas demandé notre avis, on ne nous a pas proposé de projet, et ils font des belles paroles, mais pour l'instant, ils ne veulent toujours pas nous signer une charte de relogement où on pourrait revenir au 10. Donc, même le 10 va certainement tomber.
D'accord, parce qu'effectivement, oui, tu parles du 10, Virgile. Parce qu'en fait, au départ, c'était deux halls qui devaient tomber, le 10 et le 20, si j'ai bien saisi.
Donc, c'est vrai, voilà, c'est un peu compliqué. L'immeuble 10-20, c'est quatre ascenseurs, en fait, et eux, leur but, c'est de supprimer deux ascenseurs. Ils veulent enlever le 20, en fait, ils veulent couper cet immeuble en deux.
À ce jour, ils ont déjà supprimé un hall. Je crois que c'est le 42, si je ne m'abuse, ou le 50. Ils ont déjà supprimé un hall.
Au 50, ils ont supprimé un bout de coursive au 50.
Ouais, au entier, un pan de l'immeuble complet a été supprimé.
60 logements.
60 logements.
Un peu plus de 60 logements pour à peu près 6 millions d'euros.
D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous avez mené une bataille, vous résistez en tant que locataire contre ce projet qui vous a imposé. Et au départ, il était prévu qu'il y ait deux halls qui subissent le même sort, à savoir la démolition. Et est-ce que tu peux, enfin vous deux, Philippe et Virgile, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez résisté? C'est un peu David contre Goliath, le pot de terre contre le pot de fer. Comment vous avez résisté à ce projet de démolition, et comment vous êtes arrivé à remporter une petite victoire, une belle victoire même, à votre échelle? Philippe, je vous en dis deux mots.
Comment dire ça?
Comment vous avez résisté? Comment vous êtes organisé?
Bon, alors déjà, on a créé une association. Ouais. Donc, on s'est affilié avec le DAL 38 pour avoir un poids au niveau quand même national et pouvoir, si on a des preuves, pouvoir porter nos actions au niveau collectif, au niveau juridique. Et parce que les bailleurs sont de mauvaise foi. Donc, pour essayer de communiquer avec eux, il vaut mieux être soutenu. Donc c'est un combat régulier, régulièrement on essaye de discuter avec eux malgré leur mauvaise foi, que ce soit sur les chartes de relogement, sur les conditions de déménagement des gens, sur les travaux à faire dans les logements des gens, sur le fait de laisser les appartements vides. Politique aurait dû être réfléchie, parce que là ils nous font vivre l'enfer, en fait. Ils nous font des coupures d'eau pour enlever les compteurs dans les appartements, donc on avait des coupures une fois toutes les semaines pendant l'hiver, une journée complète. Donc il y a des femmes qui ont été obligées de déménager parce qu'elles se retrouvaient toutes seules dans leur coursive. Donc une coursive, c'est un long couloir avec plein d'appartements. Donc normalement, il y a une vingtaine d'appartements à peu près. Quand vous êtes tout seul là-dedans, c'est pas très sécurisant. Et tout ça, le bailleur l'a bien réfléchi, en fait. Il l'a réfléchi pour faire vivre l'enfer aux locataires encore présents.
Aux résistants, en fait. C'est du travail de sape, de la résistance qui s'organise.
Ben, on se retrouve obligé de résister, mais en fait, c'est surtout qu'on est amoureux de nos logements. Moi, et du quartier et de nos logements qui sont de qualité. On a des vues traversantes qui ont été réfléchies par les architectes de l'époque, qu'on ne pourra pas retrouver ailleurs, avec une position au niveau du parc, proche des commerces, proche du tram, avec tous les avantages du pôle économique de la Bruyère qui est souvent oublié dans leurs projets. On est très bien, donc on sait qu'on va être perdant en déménageant, donc on ne sait même pas où aller.
Philippe, tu veux compléter ?
Non, c'est bon, c'est juste qu'on on est en train de mettre en place une pétition.
Pour résister ?
Pour
elle
résister.
Est mise en place. On a réussi. On a réussi
à faire une interpellation et votation citoyenne. Et on compte sur vous, en réalité.
Oui, c'est à tout le monde d'agir à son échelle, bien sûr. Nous sommes tous des colibris. Donc, comment on fait pour participer avec vous, résister avec vous à cette pétition? Elle est où? On la trouve où?
On l'a partagé sur le Facebook résident au pluriel Arlequin. Peut-être sur le Twitter aussi, pareil. Elle est sur le site de la mairie.
Donc c'est une pétition citoyenne, si je comprends bien. Et si vous arrivez à réunir 2000 signatures, il se passe quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
On peut débattre surtout. Et être
on impose le débat, je crois.
Imposer le débat, contradictoire à ce qu'ils ont prévu.
On rappelle qu'on avait demandé une prise de parole au conseil municipal qui nous a été refusée. D'où ces démarches, parce qu'il y a, alors comme je disais, les bailleurs et la mairie sont de mauvaise foi. Ils avancent sur des mensonges, les projets au fur et à mesure qu'on arrive à contester leurs arguments, ils changent d'arguments. Donc voilà, il y a un vrai problème pour se faire entendre avec la mairie, et ils ont quand même accepté. Après moult discussions, un texte qui nous permettrait de demander au maire, en fait, de ne pas signer de démolition de logements à 5 euros en moyenne qui manque sur l'agglomération.
Parce qu'en fait, si je comprends bien, normalement, avec cette nouvelle mairie qui voulait gérer la ville autrement, une ville apaisée, disait-on, l'idée, c'est qu'il y a une sorte de démocratie participative un petit peu qui est là... au moins un substitut. Et l'idée, c'est que si vous pouvez, si vous êtes capable de récolter 2000 signatures de résidents et de résidentes grenoblois et grenobloises, vous pouvez leur imposer à la mairie de vraiment discuter ce cas de figure-là et de statuer officiellement sur le drame que vous vivez, en fait.
Ben voilà, vu qu'on conteste la concertation, déjà ça va nous permettre avec cette pétition d'essayer d'aller faire un porte-à-porte sur le quartier et sur la ville de Grenoble pour essayer de prendre le point de vue des Grenoblois, en espérant forcément qu'ils ne soient pas pour des démolitions de logements à bas prix qui manquent. Quand je disais 5 euros tout à l'heure, c'est 5 euros du mètre carré en loyer fixe. Et c'est aussi important de concerter sur ces projets, parce que vraiment auprès des habitants on trouve des idées géniales, et là on trouve que la mairie fausse le débat en retenant que leur projet à eux et ignore complètement la parole des habitants.
Donc en faisant le porte-à-porte, c'est vous qui faites en vrai ce travail de concertation qui aurait dû être fait initialement. Et c'est vous qui partez au contact des habitantes et des habitants pour récolter leurs idées. Et au niveau des locataires, est-ce que vous êtes du reste des locataires de la Villeneuve, vous êtes soutenus, vous vous trouvez quand même aidés dans vos démarches ou pas suffisamment?
On est soutenu, mais on n'est pas aidé dans nos démarches, car faut rappeler que tous ces projets, moi quand j'avais 15 ans, j'allais déjà à leurs réunions, et ils ont toujours fait en sorte de faire le contraire de ce que les gens demandaient. Donc à un moment donné, les habitants sont fatigués de participer à ces fausses concertations. Notre but, c'est plus de participer, mais c'est de faire les choses. Donc c'est pour ça qu'on arrête d'attendre et on essaye de se mobiliser comme d'autres en France, LRM, etc.
Parfait. Moi, ce que je retiens quand même, peut-être qu'on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure, après la pause musicale, c'est que quand même, ce combat du pot de terre contre pot de fer, vous le menez avec force et courage, et que de la démolition de deux halls, vous êtes parvenu à votre seul... transpiration, énergie et rage, à diviser la casse par deux, j'allais dire. Désolé pour le jeu de mots. Mais ça, j'aimerais bien qu'on en reparle un petit peu tout à l'heure. Si Baptiste, à la technique, veut nous partager le son. On écoute quoi maintenant, Jeanne?
On va écouter du coup Capitale de la rupture de Kenny Arcana, un morceau en lien avec notre discussion.
MARSEI, 2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville, celui d'avant a disparu. QNQSCV à tous ces enfants de la rue. À nos rues incomptées, génération du crapule. Ma ville entière a sombré, soumise, ombrée. Pour en faire une belle ville de la côte d'Azur. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. pendant qu'ils font plusieurs hôtels. Plus belle est ma vie que dans vos têtes. Mars est refaite à notre sud. Petit délit mange longue peine au bon mètre ou à l'une. Pour pas grand chose dorénavant, on te fera tuer. Qu'est-ce qu'est devenue la Joliette après expulsion par centaines? Certainement parce qu'on aurait voulu où est passée la fille du bled. Paraît que ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessinée par Euromède, venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui souffre. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Trop peu sont opposés aux colons de la belle cité de Fossé. Tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition, de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours rassemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture de MARSEI2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien une. Choque des cultures 2013, prix de vitesse, flic et caméra à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, comme ce qui reste. Esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus. Alors je dédicace les petites teignes. Anti-système, qu'on soit en cage ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir? Nos rues se remplissent de tristesse. Un genre d'apartheid se dessine, nos zones n'étaient pas que livrées. La camaraderie, la vraie, la joie, y'avait pas de carabine. Vers la JSS, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassé dans des blocs, la celle ici c'est dans le chine. Plus de place dans les réseaux donc ça tire dans le vif. Refont nos quartiers et nous virent pendant que la misère s'accroît. Tranquille se pavanent les touristes pendant que mes frères sont au placard. Partout les caméras nous fixent pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture.
On est toujours donc sur Microfondes jusqu'à 14h, donc sur Radio Kaleidoscope 97 FM ou sur internet sur radio-kaleidoscope.net. Donc vous pouvez nous retrouver tous les dimanches du mois et on continue donc sur notre discussion sur le 10-20 et avant d'enchaîner sur la discussion, je crois que ce morceau a été choisi pour une très bonne raison.
Ouais, moi j'ai choisi ce morceau parce que en fait il exprime comment aujourd'hui il y a des processus de transformation des quartiers et que ces processus de transformation des quartiers se font contre les habitants. Et voilà, ça se passe dans toutes les villes du monde et voilà, il y a des gens qui résistent à ça et cette chanson, en fait, elle exprime ça, qui est une capitale de la rupture. C'est-à-dire, il faut qu'on nous, on fasse la rupture comme eux, ils font d'autres grands projets de ville. Il faut qu'on ait nos propres projets de ville, sinon on va se faire à chaque fois virer, en fait, des espaces dans lesquels on vit, on habite.
Merci David, puisque tu as la parole, je crois que tu vas la garder. On va enchaîner. Toi, tu gères l'atelier populaire d'urbanisme. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment, toi, tu es relié à cette lutte du 10-20 dont on vient de parler juste avant.
Alors, bonjour à tous. Donc David, je suis membre de l'atelier populaire d'urbanisme. L'atelier populaire d'urbanisme, c'est un groupe qui est issu en fait de la première lutte à la Villeneuve contre la démolition du 50 Galerie de l'Arlequin, donc qui est né par donc il y avait un collectif contre les démolitions au 50 Galerie de l'Arlequin qui a mené la bataille, ça n'avait pas été suffisant à cette époque-là pour gagner, mais malgré tout il y a eu des propositions de dire à la fois on est contre les démolitions, on n'est pas juste contre des démolitions, on est aussi pour d'autres choses, c'est-à-dire pour d'autres transformations. Si on lutte contre les démolitions, c'est qu'on sait que c'est pas les solutions et que du coup on souhaitait mettre en avant les solutions. Donc en gros, l'APU, c'est un groupe d'habitants qui cherche à penser et imaginer et faire des propositions pour un autre projet urbain que ceux qui proposent à la ville.
Et ça se construit comment, les APU? Vous avez des forces vives, des expertises, des choses comme ça pour pouvoir être force de proposition face à soi-disant, normalement, des administrations qui ont les moyens de penser eux. Vous avez des moyens équivalents pour penser des projets alternatifs?
Bah nous, c'est un atelier populaire, donc on fait avec les moyens du bord et ce qu'on peut trouver. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a analysé quelles sont les alternatives en fait à ce type de projet de transformation, on a besoin d'aller trouver de l'expertise du côté des architectes, des géographes, des urbanistes, des personnes qui vont pouvoir mettre leur savoir technique au service des luttes des habitants pour pouvoir proposer d'autres projets. Parce que l'un des pouvoirs en fait qui se cache derrière ces projets de transformation, c'est leur capacité à développer des projets avec des savoirs techniques qui font qu'ils ont non seulement le pouvoir, l'argent, mais également un certain nombre de savoirs qui permettent de pouvoir maintenir leur domination sur la ville. Et nous, si on veut lutter contre ces différents projets, il ne s'agit pas de faire comme eux, mais faire autrement et que les habitants puissent être soutenus, aidés par des architectes, des urbanistes, des géographes. Voilà, donc nous, on est beaucoup allé chercher du côté des universités qui sont autour de Villeneuve, parce qu'il y a une école d'architecture, un institut d'urbanisme, un institut de géographie. Et de ce côté-là, il y a des universitaires, etc., qui sont là et qui, un certain nombre en tout cas, ont aussi des points de vue critiques. Donc c'est d'aller chercher des savoirs pour soutenir les luttes des habitants, parce que de manière générale, les paroles des habitants sont dévalorisées vis-à-vis des savoirs des architectes en chef. Or, les habitants, ils vivent dans leur quartier. C'est eux qui savent le mieux comment ça se passe et qui savent qu'est-ce qui est bon pour eux. Ça, jamais personne ne devra dire qu'est-ce qui est bon à la place des gens. Donc, c'est vraiment un soutien et l'APU, ça fonctionne comme ça. Donc, il y a différents groupes de travail qui s'organisent pour essayer de faire des propositions.
Oui, si je comprends bien, en fait, il y a deux moyens de faire, soit des architectes bien pensants, bienveillants, qui du fond de leur bureau peuvent fantasmer des réalités de terrain et imaginer des solutions, ou alors une autre expertise qui est celle de la vie et du quotidien, celle des habitants, et c'est les premiers concernés. Et vous allez plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire reprendre par le bas qu'est-ce que les habitants font, comment ils utilisent leur environnement et comment optimiser et adapter au mieux cet environnement pour eux. Parfait, c'est bien.
Je vais donner 2-3 exemples concrets, en fait. Les urbanistes partent toujours de l'extérieur sur l'intérieur. Donc, c'est comme ça que ça les amène à penser des démolitions, parce qu'ils pensent toujours de l'extérieur. Et donc, ils tracent des lignes. C'est vieux depuis Haussmann. Ils tracent des lignes qui, quand il y a un bâtiment qui est devant cette ligne-là, sur une carte, ça leur enlève. Ils s'en foutent, en fait, ils démolissent ce quartier. Or, les habitants, dans la réalité, ils ne vivent pas sur... c'est pas des lignes, il y a des logements très concrets et que ces lignes qui sont tracées sur une carte aboutissent à des démolitions de logements où les gens ils sont virés, quoi. Donc,
La réalité, c'est un scandale ce qui se passe à Villeneuve. Il y a eu des projets d'architectes. On en est peut-être au troisième projet. Bientôt, on en a pour plus cher de projets que de réhabilitation. Et puis les projets sont cachés, on ne les partage pas. Donc c'est scandaleux ce qui se passe sur ce quartier. Il y a un abus sur les subventions. Il y a des millions qui disparaissent. C'est un gouffre.
Et ça, c'est clair qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, différents projets. Et du coup, bon, les urbanistes, ils ont cette manière de faire le plus souvent. Nous, l'autre manière, c'est de partir pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. Et du coup, de partir de qu'est-ce que concrètement les gens veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et on voit bien que là, par exemple, on a fait des études sur le 10-20 et qu'il y a des possibilités de réhabiliter le 10-20 qui sont tout à fait concrètes, tout à fait possibles, qui sont même moins chères que leur projet et qui amélioreraient concrètement le quartier. Parce que, en gros, on est contre les démolitions, mais on est pour des réhabilitations. On est pour que le logement social s'améliore, mais sans augmentation de loyer, parce que les gens, ils ont des droits. Mais il n'y a pas que ça. Il y a réhabiliter le logement, mais également des besoins d'investissement dans les écoles. très fort. Et donc là, la PU, là, dans le cadre du premier projet de rénovation urbaine, l'avait signalé de façon très forte, avec des mobilisations de parents d'élèves, etc. Et on a obtenu, par exemple, dans le nouveau projet, qui va avoir plusieurs millions qui vont être consacrés à la reconstruction des écoles. C'est ce type aussi de savoir, de montrer en fait, que leur logique, elle est une logique liée à une certaine forme de ville. On va en parler tout à l'heure, mais c'est une logique clairement capitaliste. Et il y a d'autres en fait, possibilités pour nous, et de faire nos propres projets et de développer là où on a nos besoins. Et en fait, à Villeneuve, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes, il y a un Grenoblois sur cinq, un jeune Grenoblois sur cinq, il vient de Villeneuve. Et donc, avoir des écoles de qualité, des équipements de qualité, etc., c'est nécessaire, c'est un besoin, en fait. Et du coup, que ces millions-là servent aujourd'hui à démolir, alors qu'il y a besoin d'avoir des lieux qui sont nécessaires en fait à tous, ça c'est essentiel. Donc d'autres projets sont vraiment possibles, c'est ça qu'on essaye de faire émerger.
Oui, merci.
J'ai une petite question, parce que c'est vrai que Virgile, tu disais tout à l'heure que du coup les habitants en fait avaient quand même encaissé depuis longtemps des plans et des plans et des plans et des promesses politiques, et que c'était difficile de croire. Et du coup, moi, je me pose la question, c'est quoi les difficultés aujourd'hui de mobiliser dans un contexte où quand même les populations sont prises des politiques en pleine face depuis des années. Et du coup, pour les APU, comment vous parvenez à mobiliser? Quelles sont les réactions des habitants? Est-ce que c'est si simple? Est-ce que c'est compliqué? Il me semble... Voilà, question.
Ouais, c'est toujours compliqué. Après, c'est le temps long. Et en gros, l'APU, il a été créé en 2012, à la suite de la lutte contre la démolition du 50. On voit que l'histoire, elle se répète. Donc en fait, là aujourd'hui, après le 50, il y a le 20. Mais après le 20, il y aura peut-être encore d'autres projets. Donc il y a peut-être le 60, il y a peut-être le 100, il y a le 160. Donc en fait, on a intérêt quand même de s'organiser sur le long terme et de pouvoir faire émerger une critique de fond en fait de la logique qui est à l'œuvre. Après, concrètement, avec les gens, on aimerait tous en fait qu'on ait des luttes radicales qui concernent des milliers de personnes et tout dans les quartiers, voilà. C'est beaucoup plus réduit que ça, bien sûr, mais il y a quand même pas mal de soutien et pas mal de gens en fait qui petit à petit en fait là-dessus se sont dit en fait c'est important, parce que si on réagit pas ça va se répéter, et ça se répète d'ailleurs à Villeneuve, mais ça se répète aussi dans d'autres quartiers. C'est-à-dire qu'il y a une logique à l'œuvre, il faut qu'on la comprenne bien. Il faut qu'on comprenne en fait c'est quoi qui est en train de se passer, et voir comment, d'une part, on peut résister, mais d'autre part, qu'on puisse vraiment proposer autre chose. Parce qu'au final, on peut convaincre en fait. On peut réussir à convaincre que la manière dont ils font, elle est injuste, elle est discriminante, elle a des racines coloniales. L'urbanisme français a des racines coloniales. L'urbanisme, il a été pensé en Algérie sur les plans, donc, et sur les quartiers populaires. Aujourd'hui, ce qui est en train de se déployer, cet urbanisme qui vise à démolir des logements, il a aussi une origine coloniale. Et cette d'origine coloniale, elle est complètement inscrite dans l'urbanisme français. Donc, ils font comme si c'était pour les gens, mais en réalité, ça se fait contre. C'est des espaces qui ont été produits, qui ont une époque, qui ont une histoire. Et cette époque et cette histoire qui est celle des quartiers français, elle est longue. Alors, les alternatives, elles viennent de l'histoire des luttes des quartiers. Et il y a beaucoup d'histoires de luttes des quartiers depuis des années. Cette histoire, il faut qu'on réussisse à la transmettre, à la diffuser. Et au final, on verra que peut-être, ce sera peut-être pas tout de suite, mais on arrivera à créer une alternative. Et ça, c'est nécessaire, c'est un travail de très longue haleine, mais on va y arriver, parce qu'on a des collectifs comme le 10-20, il y a le DAL qui est là, il y a plein de collectifs en France qui se battent contre les projets de rénovation urbaine. Donc voilà, on se soude, c'est dur, on en prend plein la gueule, mais on se soude et on continue, quoi.
La révolution est en marche.
J'ai une amie militante de Saint-Étienne, que je salue, Sonia Moussaoui, qui dit que le temps des dominés n'est pas le temps des dominants. Donc effectivement, un temps long, comme tu dis, David. T'as cité le DAL, bon, on va enchaîner, parfait, avec Raph qui va nous parler un petit peu du droit au logement et de ce qui s'y passe et comment il s'est retrouvé lui aussi, ce collectif lié à la lutte du 10-20 et comment tout ça, ça converge et crée du sens.
Bonjour à tous. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, au DAL, on a cette réflexion assez étrange et assez révélatrice, c'est qu'en fait, on a trois permanences dans la semaine, à l'Abbaye, à Renaudy, donc à Saint-Martin-d'Hères, et à Villeneuve. Et ces trois permanences qui sont tenues, elles se retrouvent au milieu de quartiers qui sont sujets à des rénovations urbaines. Donc que ce soit, et c'est pas nous qui avons choisi de nous implanter là parce qu'on savait qu'il allait y avoir de la rénovation urbaine, c'est la rénovation urbaine qui est venue à des endroits, donc évidemment dans les quartiers populaires, parce que c'est là-bas qu'on est installé, où on tenait ces permanences-là. Donc on se retrouve immédiatement, frontalement, opposé à ces opérations-là. Et concernant le 10-20 Galerie de l'Arlequin, on s'est rencontrés en début d'année 2017, si je ne dis pas de bêtises. Notamment, on s'est bien trouvé sur ces histoires de concertation auxquelles nous, on ne croit pas trop. On ne croit pas trop non plus à la démocratie participative, mais il y a quelque chose auquel on croit, c'est quand même à la démocratie sociale. Et ça, c'est quelque chose duquel on ne parle plus du tout. C'est qu'en fait, les comités de locataires en France, ils ont des droits. Ils ont des droits vis-à-vis des bailleurs, ils ont le droit à être au conseil d'administration, ils ont le droit d'être dans les conseils de concertation locatif, ils ont le droit d'être informés des projets qui vont leur tomber sur la gueule, ils ont le droit d'être informés du prix du loyer qui va augmenter, ils ont le droit d'être informés et d'interpeller le bailleur. Et aujourd'hui, cette démocratie sociale, elle est complètement laminée, et notamment par le bailleur SIC Habitat, qui en fait refuse tout échange avec, que ce soit avec le 10-20 Galerie de l'Arlequin, le comité des résidents, ou que ce soit avec le DAL. Et pour obtenir satisfaction, il faut envoyer 15 courriers recommandés, 10 mails, 10 coups de téléphone pour avoir un peu des réponses. Et en fait, là, on en est là. On en est à dire, ben non, en fait, je vois pas pourquoi est-ce qu'on vous écouterait. Concrètement, vous n'êtes rien. Vous êtes que des locataires. Et donc ça, c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment très compliqué dans ce contexte-là à continuer à se battre. Un peu l'objet du DAL, c'est bon, ils sont multiples, hein, mais c'est notamment de faire le pont entre les locataires et les personnes mal logées ou sans logement, parce que on pense que c'est comme ça qu'on peut s'attaquer au problème du mal logement et des personnes qui n'ont pas de logement. Et il faut réussir à critiquer sur le fond les logiques qui sont à l'œuvre sur le mal logement. Donc en gros, il y a d'un côté les pouvoirs publics qui refusent d'agir concernant notamment la réquisition des bâtiments vides, la mise à disposition, qui refusent de baisser les loyers, qui refusent de mettre fin aux expulsions et qui accompagnent le processus capitaliste à l'œuvre de spéculation foncière et immobilière et qui est aussi en fait la cause de tous ces projets de rénovation urbaine. C'est-à-dire que l'objectif dans ces projets-là et dans ces opérations-là, c'est quand même de récupérer du foncier public, notamment à la Villeneuve là, pour le faire passer au privé. Et le deuxième objectif, c'est de faire baisser dans ces quartiers-là le nombre de logements sociaux. Donc là, par exemple, à Villeneuve, on veut passer à l'Arlequin, je ne sais plus, de 70 à 50%. À Renaudy, c'est pareil, on veut passer de 80 à 50% de logements sociaux. À l'Abbaye, alors j'en parle même pas parce que ce serait complètement indécent. Le pourcentage de logements qui vont être vendus, c'est quasiment la totalité, et démolis, ils vont démolir le reste. Donc c'est ça l'objectif, c'est quand même de marchandiser le logement public qui a quand même été payé pendant des années par les locataires et par les locataires modestes, et c'est de capitaliser en fait ces logements-là pour les faire passer au privé. Et c'est ça la logique à l'œuvre aujourd'hui qu'on cherche à combattre, et on pense que pour les combattre, il faut faire le lien entre les personnes mal logées et les locataires, parce que c'est des personnes qui vont être confrontées tout au long de leur vie à ces problèmes de mal logement. Et c'est pas parce qu'on, par exemple, on réussit à sortir de l'hébergement, donc c'est souvent assez long pour les personnes qui n'ont pas de papier. Ils peuvent faire des années et des années d'hébergement sans avoir un logement, sauf qu'à partir du moment où ils vont rentrer dans un logement, eh ben, ils vont être confrontés au prix du loyer, au prix des charges, aux menaces d'expulsion, etc. Donc il n'y a pas le choix, il faut faire ça. Et j'ai un bon exemple là-dessus qui s'est passé récemment et qui est un peu la dernière victoire en date qui a été permise par une belle mobilisation. C'est dans le 15 Galerie de l'Arlequin, il y a énormément de logements vides, hein, on le sait, on l'a déjà dit. Et les locataires disent depuis plusieurs mois, mais comment ça se fait qu'il y a autant de logements vides et qu'il y ait des personnes dehors? Et ils disent, moi ça me fait mal au cœur de voir des gens qui sont dehors et que je sais que la porte à côté de chez moi, ou que même tout le couloir à côté de chez moi, il est vide. Et ils poussaient pour que les portes soient ouvertes. Ça fait partie des demandes aussi qu'on a faites aux bailleurs, hein, en réunion. On leur a dit, qu'est-ce que vous comptez faire avec les logements vides? Est-ce que vous pouvez les mettre à disposition? On a eu une fin de recevoir, claire et nette, plutôt pas de réponse du tout, en fait, c'est plutôt ça leur pratique. Hein. Ils nous disent pas non, ils nous disent peut-être, et puis après, on attend pendant des mois. Et finalement, aux 15 galeries de l'Arlequin, il y a une occupation qui a réussi. Donc des personnes sans logement qui ont réussi à rentrer dans un logement vide et qui ont été soutenues par les locataires. Et c'est grâce à cette coordination, on va dire, au soutien des habitants sur place et à l'action déterminée des occupants qu'elles ont pu se maintenir dans le logement. Et nous, de notre côté, au DAL, eh ben, encore une fois, on a dû envoyer 15 courriers, passer 30 coups de fil et passer un jour et demi, ne serait-ce que pour faire respecter la loi des occupants sans droit ni titre. C'est-à-dire qu'on ne demandait pas quelque chose d'illégal, on demandait que la loi soit respectée. Et pour ça, il faut se mobiliser pendant un jour et demi, H24, pour que la loi soit respectée. Et c'est vraiment très compliqué.
Donc moi, je confirme qu'il y a un réel soutien des habitants auprès de ces gens sans logement. Enfin, on n'arrive pas à comprendre qu'on laisse dormir des gens dehors, qu'on les laisse mourir dehors, alors qu'il y a des logements tout à fait potables qui peuvent être utilisés. Et on est surpris des arguments du bailleur qui dit qu'on est contre ça et que ça risque de mettre le feu au quartier, alors que c'est leurs agissements à eux de venir s'en prendre à nos parents, à des personnes qui sont, pour certaines, malades, pas loin de mourir. C'est ça qui risque de mettre le feu au quartier, que venir s'en prendre à des personnes vulnérables, ça met la haine à tout le monde. Les bailleurs sont vraiment de mauvaise foi et ils font monter la haine.
Effectivement, parce que si je comprends bien aussi au 10-20, et peut-être qu'on pourra en parler juste après parce qu'il va y avoir un joli débat avec tout ce que vous nous dites là, toutes les perspectives de lutte et le fond du problème qui est le capitalisme, hein, on l'aura compris, et les spéculations qui vont avec. Peut-être qu'on peut s'écouter un petit morceau juste avant. Baptiste, tu... C'est quoi le morceau qu'on a
Est-ce que tu veux en parler, Virginie, nous dire un peu pourquoi tu l'as choisi?
Bah on va écouter un peu ce qui se passe de bien sur le quartier. On va essayer de mettre en avant un peu. On a quand même des artistes, on n'en parle jamais assez. Bon, là, on a une info en live. Il y a la régie de quartier de Villeneuve qui est en train de brûler. Encore une mauvaise info pour le quartier, mais bon, tout ce qui doit être démoli brûle. On en discutera sur Facebook pour savoir s'il y en a qui pensent comme nous. Mais le désamiantage coûte pas cher dans les bâtiments publics à la ville. Et donc on va en profiter pour mettre un peu en avant les jeunes du quartier qui font de la musique ou des choses bien. Donc on a choisi ADN.
Manger, cheveux ballonnés. Range ta machine, t'as la malonnée. J'ai trop de fierté pour pardonner. Ils vendraient leur mère pour cartonner. J'appelle une biche, elle a faux volé. J'vais la voir, elle s'est tamponnée. Trop grosse source pour abandonner. C'est ADN, pelle, tu reconnais. Entre les putes et les flûtes et les traites, j'ai plus où mettre la tête. De la zik, mulis, elle brûle les poteaux. Y'a que là où j'peux m'éclater. Non, c'est pas la fête. Il me faut de la maille en fait. J'ai viré, j'ai serré, j'ai donné, j'ai connu jamais fourrier en fait. Viens au quartier, tu ressors plus de neurones. Fais pas le fou, tu glisses qu'un des l'euro. N'a l'air normal sûrement dans l'apparence. On peut trop vite changer pour de l'euro. Grenoble c'est chaud, ouais gros c'est Chicago. Pour t'en sortir photo, faut des coraux. Appelle-moi après, j'ai pas le temps, j'suis ta go. On peut trop vite changer pour de l'euro. J'vis ma life posée sur le raté. Ils veulent stopper gros, ils ont tenté. J'vis ma life posée sur le raté. Ils veulent stopper gros, ils ont tenté. C'est mon ghetto, y'a tout le monde qui veut faire des sous posés dans le hall, ouais. Jusqu'à en devenir fou, mes frères sont chauds, bah ouais. Toujours au charant les coups, non, j'peux plus voir, non. Mes amis au rendez-vous, c'est mon ghetto, ouais. C'est mon ghetto, ouais. C'est mon ghetto, ouais. C'est mon ghetto, ouais. Je pense à personne avant d'écrire, je dois m'isoler. Toute la night, rien que ça rôde, pourrait finir qu'à m'isoler. Je peux pas aimer, c'est pas de ma faute, chérie, non sérieux, désolé. Je comprends pas ce monde de fou, y'a que les vrais pour m'épauler. Je veux plus me voir dans le miroir, je veux voir la haine partir. Souvent bloqué dans nos problèmes, le cash m'attire.
Je veux plus me voir dans le miroir, je veux voir la haine partir. Souvent bloqué dans le noir, problème, le cash m'attire. Sans pression, ça se tire dessus. De plus en plus, je suis déçu. Que des faux prêts à ses sujets. Je marche seul avec mes blessures. Ha ha, la vie c'est dur. La vie c'est dur. Je me dis que la mort c'est sûr. La mort c'est sûr. Je vis ma life posée sur le raté. Ils veulent stopper, gros, ils ont tenté. Je vis ma life posée sur le raté. Ils veulent stopper, gros, ils ont tenté. C'est mon ghetto, y'a tout le monde qui veut faire des sous posés dans le hall, ouais, ouais. Jusqu'à en devenir fou, mes frères sont chauds, bah ouais. Du jour au charente, les coups, non, j'peux plus voir, non, non. Mes amis au rendez-vous, c'est mon ghetto, ouais, ouais. C'est mon ghetto, ouais ouais. C'est mon ghetto, ouais ouais. C'est mon ghetto, ouais ouais. C'est mon ghetto, hein. Y'a tout le monde qui veut faire des sous posés dans le hall, ouais ouais. Jusqu'à en devenir fou, mes frères sont chauds, bah ouais. Toujours au Charente, les coups, non, j'peux plus voir, non, non. Leurs amis au rendez-vous, c'est mon ghetto, ouais ouais. 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 Levé au 3800, secteur 6 3800, V9 3800 et Chirol 3800 30.
Vous écoutez toujours Micro-ondes sur Kaleidoscope 97 FM ou sur radio-kaleidoscope.net, une émission qui a lieu tous les dimanches de 13h30 à 14h. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions en podcast sur le tamis-info et sur le Facebook Micro-RKS, Micro-ondes RKS. Voilà, on repart.
Merci, sur
Jeanne.
Ce débat. Cool. On enchaîne. Donc, on a vu avec nos invités que lorsque ce projet en rue s'abat sur un secteur, un drame l'accompagne avec des habitants et des habitantes dans une situation de précarité qui se retrouvent obligés de quitter leur logement, leur vie, leurs habitudes pour être éloignés de leur lieu de vie initial. Est-ce que vous pouvez, les uns et les autres, nous expliquer c'est quoi la logique à l'œuvre de ce projet en rue exactement? Peut-être David, tu veux commencer en parlant de comment ça se passe, une fois que c'est démoli, une fois que c'est rénové, quels habitants prennent lieu dans ces nouvelles habitations?
Ouais, ouais. En fait, ce qui se passe actuellement à Grenoble, mais ça se passe dans plein de villes en France, c'est que les métropoles sont devenus les lieux avancés du nouveau fonctionnement économique du capitalisme. Donc les métropoles, ce qui cherche à attirer dans les métropoles des ingénieurs, des chercheurs de haut niveau, etc. C'est-à-dire les métropoles sont plus le lieu où ils vont mettre des usines, où du coup ils cherchent à attirer la classe ouvrière ou l'immigration, etc. On voit que c'est plus du tout ça. Et donc, c'est ce qui se passe dans plein de quartiers. Il y a la gentrification, il y a l'augmentation des loyers, il y a la spéculation foncière qui font que les logements, ils sont disponibles pour une certaine partie de la population, sauf que il y a un endroit dans la métropole qui est les quartiers de grands ensembles qui sont le résultat de la période précédente. Et ces grands ensembles, ils ne permettent plus à la métropole de fonctionner comme eux, ils le voudraient. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'ils démolissent, c'est une démolition massive, c'est des centaines de milliers de logements sociaux qui sont démolis à l'échelle de la France. Et ces logements sociaux qui sont démolis à partir d'une logique nationale qui a été créée, donc l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, cette logique nationale, elle vise à virer tout le monde qui dégage et que on puisse et que ces, les entreprises, les promoteurs, les nouvelles classes puissent venir habiter dans ces espaces qui sont situés au cœur des métropoles et qui c'est ça la logique de fond qui est à l'œuvre et que du coup sur lequel on est un certain nombre à refuser et à résister, à commencer par les habitants et tous ceux qui sont contre ce fonctionnement quoi.
Effectivement, David, et c'est un projet qui se cache à peine parce que, en y regardant bien, on voit que lorsqu'il y a rénovation après démolition, il y a augmentation du loyer, ce qui fait que ça chasse les gens qui étaient dans ces logements avant, et aussi une préférence, comme ils disent, pour les personnes dont les revenus sont le fruit du travail. C'est-à-dire que les plus précaires, qui sont au RSA ou en mode survivant, survivalisme, eh ben, ces gens-là, ils ne peuvent plus se reloger là et ils sont obligés de partir. Je crois, Virgile, que tu voulais aussi enchaîner sur les propos de David.
Moi, je trouve que ça va vraiment loin. C'est des sujets un peu compliqués. Donc nous, en exemple, on se retrouve au centre-ville avec des logements à 5 euros en moyenne au mètre carré. Donc des super logements, à part qu'on est en simple vitrage. Donc il nous faudrait juste des doubles vitrages pour être vraiment bien. Et ça, on ne peut pas le retrouver. Le prix du marché, c'est impossible qu'on retrouve ça sur le secteur. Donc si leur politique continue... les gens comme nous, on va se retrouver dans les terres froides ou vraiment à l'extérieur. Et ça va poser des vrais problèmes. Si les gens qui n'ont pas d'argent se retrouvent vraiment éloignés, le peu d'argent qu'ils auront, ils vont le passer dans les transports. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. C'est comme les politiques de démolition qui viennent là, dans la plupart des quartiers en disant « ça ne marche pas ». C'est eux qui ont fait ces politiques d'abandonner. Nous, on les avait, les écoles. Ils les ont abandonnées, ils ne les ont pas entretenues. Puis maintenant, ça manque d'école, il faut refaire. Et c'est le serpent qui se mange la queue, c'est les mensonges, c'est les politiques qui jouent à gratter des subventions pour eux. Ça vient de l'État, c'est gratuit, ils prennent leur petit truc, ils s'achètent leur maison à Mayotte et c'est réglé. Par contre, il n'y a rien n'est fait dans les quartiers. Par contre, ils enlèvent les postes d'éducateurs. Ils enlèvent les moyens qui étaient mis pour aller faire du ski ou des choses pas chères. Tout ça, ils l'enlèvent et ils parlent maintenant de police de proximité. À quoi ça sert de mettre quelqu'un qui vient de taper avec un bâton? Il valait mieux laisser l'éducateur. C'est n'importe quoi. On enlève d'un côté pour dire c'est n'importe quoi.
Toujours plus de répression, si j'ai bien compris, et pas forcément, comme le disait David tout à l'heure, les premiers concernés qui sont concertés avec lesquels on construit, toujours des gens qui d'ailleurs fantasment des réalités et trouvent des solutions pas forcément les plus pragmatiques aux problèmes que rencontrent les habitantes et les habitants.
Bah, je dirais, ça se demandait si on dérange, parce qu'en fait, on est tombé amoureux de nos quartiers, et je pense que ça, ils l'avaient pas prévu, c'est censé être des quartiers transitoires. Sauf que nous, on est tombé amoureux de ces quartiers, de leur utopie, ce qu'ils appellent eux une utopie, mais nous, on l'a vécu, donc on a vécu avec toutes les communautés de la planète, et ça s'est toujours très bien passé, et ça nous a enrichi d'énormément de choses. Et ça, ils l'avaient pas prévu, et je pense que ça la dérange, on a peut-être plus de valeur qu'eux, et ça pose un problème.
Moi, ça me fait réagir ce que tu dis, parce que quand un bourgeois il veut garder sa maison de génération en génération, il garde la mémoire dans sa maison, il garde la trace, il la donne en héritage à ses enfants, aux petits-enfants, il va tout faire pour que ce capital il s'accroît et il soit transmis. Et lui, dans ce condition-là, il sait ce que ça a, la valeur de vivre dans un endroit, de s'attacher à un endroit, de s'attacher à des murs, à des meubles, à des objets, à des rencontres, à des gens, à un espace, à un environnement, alors que là, par contre, pour des gens dont on veut pas entendre parler, c'est beaucoup. D'un coup, il y aurait pas de mémoire, il y aurait pas d'histoire, il y aurait rien à regarder, on pourrait démolir. Voilà ce que ça m'évoque, ce que tu dis aussi.
C'est tout à fait ça, et c'est pour ça qu'on essaye de mettre en avant les choses de qualité qui se sont passées dans le quartier, et les gens qui ont réussi, parce qu'il y a Voilà, comme je ne sais plus qui disait, il y a un grenoblois sur cinq qui est peut-être passé dans le quartier à un moment donné de sa vie. C'est quand même un gros truc. Et il y a beaucoup de gens qui sont partis dans d'autres pays, qui font des choses intéressantes. Il y a une vraie histoire dans ce quartier. Et comme je disais, malgré qu'il y a eu énormément de populations en difficulté, de pays en guerre, et malgré tout ça... Je trouve que le quartier a quand même bien réussi. Quand on parle de quartier en difficulté, je ne suis pas sûr que dans notre soi-disant quartier en difficulté, il y ait plus de problèmes qu'en centre-ville avec la sortie des bars. Donc il y a quand même beaucoup de choses à remettre vraiment sur de vrais chiffres, parce qu'il y a une vraie... Il y a une vraie image négative du quartier qui sert à certains, comme envoyé spécial, tout ça, à gonfler le quartier populaire pour demander des subventions, tout ça. Mais il y a des problèmes, mais ils sont loin d'être aussi graves que ce qu'ils essayent de faire paraître.
Non, moi j'aimais bien ce que tu disais, Jeanne, en effet, sur cette histoire de... Notamment les propriétaires ont beaucoup moins de problèmes avec l'urbanisme que les personnes locataires. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut réussir un peu à dénoncer et à mettre sur la place publique. C'est que les quartiers et les logements appartiennent aux personnes qui l'habitent et pas aux personnes qui arrivent avec l'argent et qui vont l'acheter ou le vendre. Et c'est vraiment ces notions-là qui, en fait, rentrent en confrontation avec la notion de propriété privée. Du coup, on peut parler là plus d'usage. Il y a des locataires, par exemple, dans le 10-20, qui habitent là-bas depuis 40 ans, même plus, qui ont refait à neuf tous leurs logements, qui ont fait du carrelage, qui ont fait de la plomberie, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que ce logement serait moins à eux qu'une personne qui l'a acheté simplement parce que peut-être il est mieux né ou il a eu plus de chances dans sa vie ou il a été moins victime de discrimination de toutes sortes. Du coup, c'est vraiment aussi cette question de du coup, je vais utiliser le terme de droit au logement, c'est-à-dire que le logement ne doit pas être quelque chose de marchand, de marchandisé, ça doit être un droit pour tous et toutes, et avec tout ce qui va avec, quoi.
Et ce qui est sûr, c'est qu'en plus, ces opérations-là qui se font contre, aujourd'hui, les gens, en fait, le discours qui est employé, c'est comme si c'était la solution. C'est-à-dire qu'ils viennent, il y a tout un discours qui s'est construit, notamment à partir des représentations véhiculées par des médias, etc. Il y a un discours qui s'est construit où, en gros, ces projets de démolition, ce serait pour éviter la ghettoisation, éviter la ségrégation sociale, éviter, etc. Or, en fait, la ségrégation sociale, elle est créée par le fonctionnement de la ville capitaliste. C'est-à-dire que c'est le marché foncier qui font qu'il y a certains espaces qui sont disponibles pour une population qui paye le prix pour habiter dans certains quartiers, qui fait qu'il y a d'autres espaces qui sont pour ceux qui ne peuvent pas forcément accéder à la maison bourgeoise à Mélan, quoi, et aux appartements gentrifiés du centre-ville. Et donc, en fait, ils viennent démolir en disant on va lutter contre la ségrégation sociale, alors que le mécanisme qui crée la ségrégation sociale, il n'est jamais attaqué. Et ça, c'est le pire, parce que finalement, il y a un certain nombre de gens qui habitent dans un quartier aujourd'hui et qui habitent Villeneuve, qui disent « oui, c'est vrai, finalement, il faut détruire ces ghettos ». Et du coup, ces arguments, ils ont une vraie efficacité, parce qu'il y a des personnes qui disent « oui, bon, c'est peut-être une solution, la démolition ». Alors que ces projets d'urbanisme ne s'attaquent pas, évidemment, au réel mécanisme de spéculation foncière, etc. Voire même, Villeneuve a une histoire dans l'urbanisme français qui est d'essayer d'apporter une solution. C'est-à-dire qu'il y a le foncier, l'ensemble du foncier de Villeneuve est public. Donc, il n'est pas divisé en îlots. Il n'est pas divisé en petits terrains qui seraient échangeables sur un marché. Il est unique. L'ensemble des hectares sont la propriété publique. Donc, Villeneuve a été même conçue comme étant une ville anticapitaliste. C'est clair dans son fonctionnement, dans son idée de départ, etc. Et c'est ça qui gêne. Aujourd'hui, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Parce que cet exemple-là, de Villeneuve, il y en a d'autres, et il n'est pas forcément parfait, etc. Il y a plein de choses à Villeneuve qui voilà, il y a plein de difficultés, etc. Mais cet exemple-là, il permet à des milliers de personnes de pouvoir habiter dans la métropole avec des loyers pas chers. Et des fois, il y a des gens, des politiques à Grenoble qui se disent « Oui, mais regardez le prix d'un appartement privé à Villeneuve, il est beaucoup moins cher que les appartements dans d'autres quartiers. » Évidemment, ça a été fait pour. Ça a été fait pour d'avoir des loyers pas chers et d'avoir des appartements qui se vendent pas forcément chers. Ça a été fait pour. C'est pas alors c'est vrai que pour des fois des petits propriétaires, ça peut, des gens qui avaient pensé mettre leur économie là-dedans, c'est difficile à entendre. Sauf que Villeneuve, ça a pas été pensé pour qu'on capitalise dans les appartements. Donc le logement ne doit pas servir, que ce soit un logement public ou un logement privé, pour faire des économies. Le bien commun, il doit être mis ailleurs que dans les logements. Sauf qu'on est dans une société où les gens mettent leur économie dans l'achat de logements, etc. Et ça crée sur l'ensemble du fonctionnement de notre société des phénomènes de spéculation foncière et immobilière qui sont horribles pour une grande partie de la population. Et voilà. Donc là-dessus, il faut qu'on essaye de diffuser ces idées, de convaincre les gens autour de nous que le discours qui est employé pour la rénovation urbaine de Villeneuve, mais c'est vrai pour plein d'autres quartiers en France, et elle doit être critiquée, et on peut essayer de faire émerger d'autres discours et d'autres propositions pour que la ville de demain, elle soit finalement pour tous, quoi. Il y a le droit au logement, mais aussi le droit à la ville. Et le droit à la ville, c'est le droit de pouvoir vivre tous en ville, quelles que soient nos conditions, les moyens qu'on a. Et ça, c'est hyper important de le maintenir.
Ouais, juste rapidement sur cette histoire de ghetto dont parlait David, là. Moi, ça me fait penser, on en parlait juste avant l'émission, à 2015, juste après les attentats de Charlie. On se souvient que Manuel Valls a dit « Ces attentats ont été permis à cause des ghettos des grandes villes, dans les grandes villes. » Et là, il y a une partie de la gauche, en effet, qui a applaudi en disant « Oui, c'est vrai, il faut déghettoiser, il faut agir, etc. etc. » À ce moment, je pense qu'il y a une bonne partie de ces gens-là qui ont applaudi, qui ont pensé que déghettoiser, ça passerait par améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers populaires. Et en fait, c'était pas du tout ça dans l'esprit du Premier ministre de l'époque. Et il a plutôt avancé l'argument sécuritaire en disant « En fait, dans ces ghettos, la police, elle peut plus passer, elle peut plus rentrer, elle peut plus interpeller. » Elle peut plus agir, il faut démolir et il faut aussi, et ça a été une des conséquences secondaires, il faut aussi vendre des logements sociaux et arrêter d'en construire et arrêter de masser les gens à cet endroit-là. Donc à partir de cet argument sécuritaire dont s'est saisie l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, on arrive à des politiques de gentrification, de vente de logements sociaux, de perte de logements sociaux et ça pas du tout, et il y a plusieurs études qui l'ont montré, ça n'a pas du tout amélioré les conditions de vie des habitants présents. Et les habitants qui sont partis, n'en parlons pas, il n'y a aucune étude là-dessus, parce que même nous, par exemple, là, sur le 10-20, les 130 locataires, il y en a la plupart, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont partis. On ne sait pas à quel prix ils sont partis, on ne sait pas quel loyer ils sont en train de payer aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Et en fait, il n'y a rien. Et c'est pareil sur le 40 et sur le 50, si je m'abuse, il n'y a aucune étude qui explique ce que sont devenus ces gens, alors que c'est ça le fond du problème. Et c'est ça la gentrification, c'est le déplacement forcé de la population. Au droit au logement, on parle d'épuration sociale dans ces opérations-là. Et c'est vraiment le cas.
Moi, sur la Villeneuve, j'aimerais rappeler que quand même, ça a été réfléchi à l'époque et que c'est un quartier quand même super en avance avec son très joli parc. Il est mis en avant au niveau de l'Europe, le projet Zen, éco-quartier. Le fonctionnement de la Villeneuve avec tout un espace interdit aux véhicules au centre du quartier qui permet de laisser les enfants gambader, faire du vélo tranquillement. Nous, en tant qu'habitants, on pense que c'est plutôt quelque chose à reproduire. Au lieu de vouloir démolir ça, on pense que c'est ça qu'il faut mettre, c'est mis en avant au niveau de l'Europe, et il faudrait aussi le concrétiser par des projets qui le mettent en avant, c'est-à-dire, par exemple, faire continuer le parc de Villeneuve jusqu'au Échirolles ou jusqu'au parc Paul Mistral vers la mairie, essayer de faire un couloir vert qui traverserait l'agglomération grenobloise et arriver enfin à créer une vraie ville écologiste. Contrairement à ces projets qui, on dirait, là, avec ces grosses ouvertures de gauche, de droite sur le quartier, on sent bien que le vrai projet, c'est dans le futur de faire passer des routes et d'essayer de venir manger ce secteur 6, comme il l'appelle au niveau de l'Amérique, qui est au niveau mètre carré constructible, le meilleur endroit de l'agglomération.
45 000 mètres carrés de foncier disponible,
sans risque d'inondation et sans risque Céveso au niveau des usines. Donc on voit bien le côté économique qui tombe sur un quartier populaire et voilà, on dérange.
Effectivement, je vais reciter David une fois de plus. Effectivement, on s'attaque toujours aux conséquences et non pas aux causes. Et moi, ce qui me choque quand même dans tout ça, vous écoutez et vos éclairages précieux chacun de là où vous êtes, c'est que on a, et Raph me corrigera, plus de 2000 personnes qui dorment à la rue, une pénurie de logements sur l'agglomération qui est catastrophique. Et comment on justifie de démolir des halls entiers d'appartements utilisables et dans le même temps laisser des gens dormir à la rue, appeler le fameux 115 en espérant avoir un logement? Raph, tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît?
Ouais, alors là, c'est assez intéressant parce que jeudi soir dernier, on a reçu aussi ce sujet, du coup, là, qui est un bâtiment occupé par l'Assemblée des Mal-Logés, par le DAL, le Haut Commissariat au logement et aux personnes défavorisées. Donc c'est une personne qui est assez institutionnelle, hein, et qui rencontre les préfets, qui rencontre les membres de la commission du droit au logement opposable, en tout cas qui fait des rapports sur le logement. Et lui, il nous a dit, alors bon, il est dans un rôle institutionnel, cette personne-là précisément, elle n'est pas très institutionnelle. C'est-à-dire que nous, on a pu discuter avec elle, il a pu entendre nos discours, les discours des personnes qui sont mal logées, les discours plus militants, etc. Et il nous a dit, ah mais c'est marrant ce que vous me dites, parce que là, j'ai passé la journée avec le préfet, avec la métro et avec la mairie, on m'a dit qu'il y avait 50 personnes à la rue à Grenoble. Donc en fait, c'est comme ça qu'ils justifient, c'est qu'ils disent qu'il n'y a personne à la rue. Et à partir de ce moment-là, bah, évidemment, il n'y a pas de problème de logement, quoi. Donc cette bataille du chiffre, elle est assez importante. Bon, j'ai juste dit ça pour l'anecdote, après je laisserai expliquer les autres. Mais on en est là aujourd'hui, et le gouvernement, il est dans cette logique-là. Pour ne pas parler du problème de logement, on dit qu'il n'y a pas de problème de logement, et il n'y a pas de problème de logement.
Ouais, c'est exactement ça sur le 10-20. Ils menacent les habitants de l'Arlequin de ne pas les subventionner sur leur réhabilitation s'ils n'acceptent pas la démolition. Puis après, ils disent que les habitants sont d'accord pour démolir. Il y a un énorme scandale de manipulation sur les habitants. Et ces projets sont avancés sur des mensonges. Nous, au 10-20, ça a été avancé. En gros, que la réhabilitation coûtait plus cher que... que c'était pas du tout rentable de réhabiliter cet immeuble, et on a étudié le projet, puis finalement on s'est rendu compte que c'était des mensonges. Par exemple, c'était avancé sur des arguments de sécurité au niveau du SDIS, donc les pompiers, tout ça. On les a appelés, on a fait notre propre étude avec les APU, les UPU, le collectif contre les démolitions, et il s'est avéré que le SDIS nous a dit que non, de rajouter des ascenseurs, c'était pas obligatoire, donc forcément ça faisait baisser le coût de la réhabilitation, et donc tous leurs arguments financiers tombaient à l'eau, et petit à petit comme ça tous leurs arguments sont tombés à l'eau. Donc le seul qui reste, c'est l'ouverture sur le parc, qu'on sait bien que c'est pas en cassant un immeuble qu'on ouvre sur un secteur de la ville, c'est en créant des activités sur ce secteur.
Une des manières qu'ils ont pour réussir à gagner la bataille de l'opinion, c'est qu'ils y vont avec une batterie d'études. Et des fois, des études en plus qui sont des études bidons, quoi. C'est des études des fois quantitatives, absolument pas qualitatives, etc. Et il faut qu'on mène cette bataille, de mener nos propres études, d'avoir nos propres groupes qui font des études, qui recueillent les témoignages, qui font passer la parole, qui expliquent comment ça se passe, et qu'on se batte étude contre étude, et argument contre argument, chiffre contre chiffre. Et comme ça, on va réussir à gagner, parce que finalement, il y a un certain nombre de gens qui sont alliés, de personnes aujourd'hui connaissent ou ont entendu parler de ce type de phénomène dans les villes, et il y a plein de gens qui sont prêts à nous soutenir, mais il faut qu'on mène la bataille au niveau des études qu'on peut développer pour montrer que il y a d'autres manières de faire, que c'est possible. Ils nous disent qu'il n'y a pas d'alternative. Et s'il y en a, on en a plein. Il y a des possibilités de lutter contre la spéculation. Il y a des possibilités de construire des logements pas chers. Il y a des possibilités de récupérer nos terrains, nos biens, nos espaces publics, nos écoles, nos locaux. Il y a des possibilités de développer au niveau économique des coopératives, des différents projets qui font qu'on va réussir à non seulement se maintenir dans les villes, mais également à partager un autre mode de vie, puisque au final, c'est ça qu'on cherche, c'est qu'on ne cherche pas à fonctionner comme eux, c'est-à-dire une lutte du tous contre tous, mais d'être solidaires entre nous, d'accueillir les migrants quand ils ont besoin et qu'il y a des difficultés dans les pays à côté, et d'essayer de voir comment on peut vivre une autre vie que celle qu'ils nous proposent, parce que finalement, ouais, on a des valeurs de solidarité, des valeurs de respect, d'entraide mutuelle, de soutien, et ça, finalement, c'est aussi ça, les quartiers.
Merci, David, pour cette magnifique première conclusion. On va entendre encore Raph, qui a deux mots à nous dire, et puis on va enchaîner.
Oui, aussi pour répondre encore à ta question, Abdel. En tout cas, la mairie de Grenoble, ils savent très bien qu'ils ont aucun argument pour justifier le fait qu'ils vont démolir des logements sociaux, alors que la ville de Grenoble il leur manque 2300 logements sociaux, je crois, pour être dans les clous au niveau de la loi. C'est-à-dire que chaque ville de plus de 3500 habitants doit avoir 25% de logements sociaux. La ville de Grenoble, il leur en manque, ils y sont pas, ils sont à 21%, je crois, 22%. Et ils le disent, cette démolition, ce projet de démolition va nous empêcher d'atteindre les 25%. Ils le disent clairement. Et nous, on les attend j'espère vraiment qu'on va avoir ce débat au conseil municipal, parce que concrètement, on va leur rouler dessus. Mais le problème, c'est que il suffit pas d'avoir raison dans ce monde. C'est ça le problème. Il suffit pas d'avoir raison. Il faut aussi du rapport de force. Il faut aussi, taper là où ça fait mal, parce qu'ils se privent pas de le faire. Il faut aller sur leur image, que ce soit la SIC, hein, ou que ce soit la mairie. L'image, c'est des sous. L'image de marque, c'est des sous. Il faut aller en justice pour montrer, et que la justice montre qu'on a raison. Mais voilà, avoir raison, ça suffit pas. Il faut se battre pour.
Il faut aussi que les gens se mobilisent.
Voilà, c'était sur ça que je voulais enchaîner. Merci Virgile. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler comment chacun on peut justement se mobiliser? Comment on peut vous trouver, Raph, Odal? Est-ce que vous avez un site web? Est-ce que vous avez une page Facebook?
Oui, on a une page Facebook. Nous ne sommes pas encore sur Twitter. Nous n'avons pas de page web. Mais vous pouvez nous retrouver aux permanences. On tient 3 permanences par semaine. Donc, je rappelle les horaires. C'est le mardi à l'abbaye de 17h à 19h. Le mercredi à Renaudy, donc Saint-Martin-d'Air, de 17h à 19h à la Maison des Femmes. Et le jeudi au Beaucalin, Galerie de l'Arlequin, de 17h à 19h. Une fois par mois, on fait une assemblée de lutte. Donc, on en avait une hier qui a notamment déterminé l'organisation d'une grande marche pour le droit au logement, donc ce ne sera pas porté uniquement par le DAL mais par différents collectifs, le 24 mars 2018, du coup tenez-vous prêts, ça va dépoter. Et on a aussi un numéro de téléphone qui est à peu près actif tous les jours, sauf le dimanche s'il vous plaît, n'appelez pas trop tôt, c'est le 06 41 30 55 18, 06 41 30 55 18.
Merci Raph, on sera là le 24 mars. David de la PU, Atelier Populaire d'Urbanisme, comment on peut te joindre, te trouver?
En ce moment, il y a le rendez-vous du collectif anti-démolition qui est tous les mercredis soirs, donc à 18h, Bocal 1, 97 Galerie de l'Arlequin, donc pour soutenir, parce que c'est la lutte quand même prioritaire et principale. Ensuite, il y a différents autres temps de rendez-vous. C'est un peu aléatoire. Donc pour vous tenir au courant, assoplanning.org. Pour le site internet, et puis vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux sociaux Atelier Populaire d'Urbanisme les différentes infos. Mais de toute façon, si vous voulez nous joindre, si vous venez à Villeneuve et à des moments donnés on peut se rencontrer, hein, pas forcément aussi besoin de passer par les questions toute l'électronique, quoi. C'est ici à Grenoble, voilà, on se connaît. Et juste une info, donc, du 12 au 17 mars, du coup, il y a une semaine d'action pour le droit à la ville, et parce que c'est les 50 ans de la publication d'un ouvrage assez important d'un philosophe et sociologue qui s'appelle Henri Lefebvre, qui est anticapitaliste, qui a beaucoup pensé la question de la ville. Donc c'est les 50 ans cette année de la publication de son ouvrage, et il y a des événements un petit peu partout. À Grenoble, ce sera du 12 au 17 mars.
Merci David, du 12 au 17 mars. On y sera aussi, bien évidemment. Et pour finir, nos amis du collectif des habitants du 10-20, à savoir Virgile et Felipe, à vous la parole.
Oh, vas-y Felipe, exprime-toi.
Alors, Alors pour nous joindre, il y a Facebook et Twitter qui est résident au pluriel Arlequin. Et bien sûr, la pétition qu'on est en train de mettre en place, non, qu'on a mis en place, qu'on compte sur vous en réalité.
Il vous faut 2000 signatures. Signer. Merci. C'est quoi ça, David? Tu peux nous en dire deux mots? Tu me donnes un bouquin?
Du coup, un petit peu de promo aussi. Donc, il y a un livre sur les différentes années de lutte à Villeneuve qui s'appelle Plaidoyer pour Villeneuve, pouvoir d'agir et planification démocratique face à la rénovation urbaine de l'Arlequin. Voilà, qui est aux éditions du PUCA, et qui est un livre qui retrace un petit peu les différentes luttes. Il y aura peut-être un tome 2 avec les luttes qu'on mène actuellement, et un tome 3, parce que voilà, Villeneuve, c'est pas fini, et voilà, il y aura beaucoup à faire pour des générations de militants qui veulent se battre pour essayer d'avoir une autre ville.
Merci beaucoup chacun pour votre investissement dans cette lutte du logement.
Merci à vous, hein. Merci à vous de nous avoir invités, d'avoir animé le débat, c'était vraiment super bien, merci beaucoup.
On enchaîne, tu veux bien, Baptiste?
Vous avez choisi un truc?
Je sais pas qui est-ce qui a choisi un morceau pour finir.
Je crois que c'est encore Kenny Arcana.
C'est ça, encore Kenny Arcana.
Écoutez-nous.
Baptiste à la technique, merci.
Parler, écoutez-nous, on veut pas de votre armée en bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers. C'est cool, c'est nous, mais ça pourrait barder si on déboule chez vous. Vous faites que parler, écoutez-nous, on veut pas de votre armée en bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers. C'est cool, c'est nous, mais ça pourrait barder si on déboule chez vous.
Écoutez-nous, on en a marre de manger vos matraques. On défend le vivant et le gouvernement nous attaque. Vos médias nous boycottent et nous font passer pour des macaques. Car on refuse le dressage assis couché debout dans la patrouille. On a des choses à dire et des vraies idées à défendre. Institutions racistes, je perds le monde depuis ma naissance. Libre penseuse comme Yanis, dans une industrie indécente. Pour les frères, restez sur le parvis, pour les sœurs, en quête de vrai sens.
Écoutez-nous,
avant que le dialogue soit annihilé. Sais-tu ce que c'est grandir dans les inégalités? Tu sais, la frustration prend forme et les rêves brisés transforment les ex-rêveurs en braqueurs. Ou mec radicalisé, écoutez-nous.
Vous avez tendance à jouer les étonnés. La vue ne vous dérange pas tant que c'est de votre côté. Tellement habitué à vivre dans votre inégalité. Plus rien ne vous gêne, donc c'est à nous de tout changer.
Vous faites que parler, écoutez-nous. On veut pas de votre armée en bas de chez nous. Viens voir dans nos quartiers, c'est cool, c'est nous. Mais ça pourrait barder si on déboule chez vous. Vous faites que parler, écoutez-nous. On veut pas de votre armée en bas de chez nous. Viens voir dans nos quartiers. Mais ça pourrait barder si on déboule chez vous.
Je me suis levé avec l'envie d'en découdre. Fatigué chaque jour que Dieu fait de devoir, je découdre. Je suis décidé, j'ai mes idées, quoi qu'il en coûte. Je viens poser, faire exploser un système qui me dégoûte. Il nous pousse à bout et il nous roule dans la boue. Le tout pendant qu'il s'accoule d'eau,
ça craque dans la foule.
Nos droits on bafoue pendant qu'on s'écroule sous les coups. Garde à vue, garde à vous, get your youth. Écoutez-nous, je vais pas te détailler tout ce qu'on subit comme misère. La liste est trop longue, on en aurait pour l'hiver. Mais s'asseoir à croix sur un homme, monsieur le commissaire, toi tu n'appelles pas ça une bavure policière. Alors écoutez-nous, si c'est comme ça on peut se passer de vous. Alors écoutez-nous, on vous prévient que la jeunesse est pour vous. Vous ne faites que parler, écoutez-nous. On veut pas de votre armée en bas de chez nous. Viens voir dans nos quartiers, c'est cool, c'est nous. Mais ça pourrait barder si on déboule chez vous. Vous ne faites que parler, écoutez-nous. On veut
dis-moi ce que tu en penses. Si la police tape et dépouille, tu parles de justice en franc. Mais à vue d'œil, on s'en fond. Combien de jeunesse en tension, combien de révoltes que l'on étouffe.
On a quoi se poser des questions sur l'état de nos conditions. Le peuple est à l'abandon et ce n'est pas qu'une simple impression. La morale, longtemps qu'ils en font abstraction, vont à l'inverse de leur fonction. Terrorisent la nation, ce n'est pas normal.
Encore combien de générations humiliées, pointées du doigt, mais en quête d'élévation, en pleine dégénération.
On continuera nos actions tant qu'il y aura de l'exaction. Kenny donne la conclusion, ça va faire mal.
Vous ne faites que parler, parler. Sans gêne, toutes les ondes sont à vous. Inventez toujours des problèmes quand les vrais problèmes sont à vous. Qui profite quand le vase est trop plein? Qui profite quand le peuple est à genoux, libre et égaux devant Dieu? Dis-leur que c'est vrai, le monde est à nous.
Vous ne faites que parler. Écoutez-nous, on veut pas de votre armée. En bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers. C'est cool, c'est nous, mais ça pourrait parler. Si on déboule chez vous, vous ne faites que parler. Écoutez-nous, on veut pas de votre armée. En bas de chez nous, viens voir dans nos quartiers. C'est cool, c'est nous, mais ça pourrait parler. Si on déboule chez vous.
Vous êtes toujours sur micro-ondes, sur Radio Kaleidoscope 97 FM. On est ensemble et pour encore quelques minutes jusqu'à 14h. Et donc vous pouvez nous réécouter en podcast sur le-tami.info. Et vous pouvez publier des choses sur notre Facebook éventuellement, sur Facebook micro-ondes RKS. Et donc, on en est à la dernière partie de notre émission, qui est donc les traditionnelles brèves et agendas. Et on commence avec une brève sur le mouvement qui est en train de se construire à la fac et au lycée.
Alors du coup, moi je vais cumuler, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais cumuler brèves et agendas. Et puis on fera, juste pour prévenir, on fera une émission spéciale, probablement en avril, sur les questions de l'éducation. Et là, juste pour dire que après la réforme de la fac, qui mobilise déjà les personnes à la fac sur la question de la sélection à l'entrée de la fac, il y a aussi l'annonce de la réforme du lycée, avec tout un dispositif de diplôme, on va dire, de diplôme et de matière à la carte. C'est dommage, j'avais prévu d'en parler plus longuement, mais vraiment, on prendra le temps d'en parler, voilà. En tout cas, il y a des mobilisations qui commencent à se mettre en place, il y a les syndicats qui sont sur le coup, il y a une mobilisation notamment le 6 février à
13h30, avec un départ donc depuis le campus jusqu'au rectorat, et au rectorat... l'université et les lycéens se retrouveront pour aller ensuite jusqu'à Place Vernin.
Merci Jeanne. J'enchaîne avec la brève sur les Chibanis, à savoir nos Chibanis, ça veut dire cheveux blancs en arabe. Les Chibanis de la SNCF, c'était 848 travailleurs qui avaient été recrutés par la SNCF au Maroc. Et à l'époque, ils avaient été recrutés avec un statut très spécifique, un sous-statut, je dirais, validé par les syndicats en place, qui faisaient d'eux des travailleurs de second ordre. Et donc, ils ont travaillé toute leur vie, et au bout du bout, bien sûr, ils ont eu beaucoup moins de promotions que les autres, voire pas du tout, des salaires bien inférieurs, etc. Et donc, au bout du bout, arrivés à la retraite, ils ont porté plainte contre la SNCF pour obtenir réparation. Les syndicats officiels ne les ont pas suivis, ils se sont auto-organisés entre eux, et encore une fois, le pot de terre contre le pot de fer, et ils ont gagné. Voilà. Et donc, ils ont gagné. La SNCF a attendu la dernière minute à l'époque pour faire appel et jouer la montre, puisque nos Chibanis sont anciens. Elle s'est dit, moins il y en a, moins je paierai. Et donc, du coup, c'est parti dans le temps, comme ça. Ça a traîné comme ça pendant encore 2 ans. Et au bout du bout, nos Chibanis, le pot de terre contre le pot de fer, eh bien, ils ont gagné.
À nouveau, bravo.
Bravo contre la SNCF. Ça prouve que tout est possible. Et donc aujourd'hui, la SNCF, même si elle veut faire appel en cassation, etc., elle est obligée d'indemniser nos Shibani, nos valeureux Shibani. J'en profite pour les saluer parce que c'est brave, valeureux, force et honneur à eux. Bravo. Ben voilà.
Juste pour un petit chiffre, 848 Shibani et 170 millions d'euros du coup qui leur sont reversés, que la SNCF leur donnait. C'est quand même pas mal d'argent du coup qui était que la SNCF devait leur reverser, et on peut les féliciter pour cette victoire.
Merci. On enchaîne avec la suivante. Philippe Robin, il est par là. Super. On va enchaîner avec la brève suivante. Elle concerne le CRI. On prend deux petites minutes pour en parler avec un invité surprise, Philippe Robin, qui est responsable du CRI local. Et Abdelaziz Chambi, qui a eu un procès, discutable, pour rester dans les clous, concernant une famille Msakni qui a été soupçonnée de radicalisation. Et à l'époque, Manu Militari, on leur a enlevé leurs 5 enfants sur suspicion, dont un enfant de 3 mois. Le CRI et tous les organismes en lutte se sont mobilisés. Ils ont porté la lutte à leur manière. Ils ont fini par gagner. Parce qu'en fait, c'est le petit bébé de 3 mois qui avait été enlevé au sein de sa mère, qui n'était plus allaité, il a été sevré de force. Ils ont réussi à obtenir qu'il soit rendu à la maman, au moins pour qu'elle puisse l'allaiter. Et dans l'intervalle, le conseil régional a porté plainte contre Abdelaziz Chambi pour
un jour public
portant à la dignité d'un fonctionnaire. On a assisté à son procès il n'y a pas très longtemps. Tu peux nous en dire deux petits mots, Philippe, s'il te plaît, rapidement.
Bonjour
Philippe.
Donc on était effectivement à Grenoble pour le procès en appel. Donc c'était le procès en appel il y a 10 jours. Donc le premier procès avait lieu en février 2017 à Bourgoin-Jallieu. Et donc il y avait eu un non-lieu. Et donc le procureur de la République a fait appel... donc on était en procès mercredi dernier, donc à Grenoble. Donc grosse mobilisation des militants, des assos pour soutenir Abdelaziz et le CRI, parce qu'à travers Abdelaziz, c'est les associations de militants de défense des droits qui sont touchées. En fait, donc c'est juste pour nous c'est un procès politique évidemment. Donc pour faire taire une parole militante de défense des droits. Donc on attend le résultat le 7 mars.
Voilà. Merci Philippe. On aura l'occasion d'entendre Philippe beaucoup plus longuement la semaine prochaine. On va faire une émission avec le CRI. Et dans l'intervalle, moi je vous salue.
Alors agenda, on va faire un agenda en 2 secondes. À partir de demain, du 5 au 9 février, c'est les 3e rencontres de géopolitique critique. Donc cette année, après d'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'année dernière, le droit à la ville dont on parlait tout à l'heure. Donc cette année, c'est sur la question du savoir situé. C'est-à-dire, comme ils le disent, les savoirs ne sont pas neutres parce que les individus qui les produisent ne sont pas sans histoire, sans intention. Ce sont donc des savoirs situés socialement, historiquement, politiquement, positionnés dans les rapports de force en vigueur, classe, genre, religion. Donc c'est tout un programme qu'on ne va pas pouvoir détailler, mais il y a beaucoup de choses sur toute la semaine. Et vous pouvez trouver le programme en entier sur le site du CRIC. Voilà.
Dans les événements cette semaine, donc on a parlé de la manif lycéen-fac le 6 février. Il y a aussi le rendez-vous qui a été donné à Notre-Dame-des-Landes le 10 février. S'il y en a qui veulent partir en car, vous pouvez encore contacter le collectif de soutien. Vous pouvez aussi vous rendre à Antigone mercredi soir à partir de 18h. Il y a probablement encore des places. Voilà.
Et pour finir sur l'agenda de cette semaine, le 10 février aussi, à Grenoble, à la maison des habitants de Chorier-Beria, c'est 8 heures de solidarité avec le peuple africain. Donc le Maroc en ébullition contre la misère et la répression. Et donc ça sera à partir de 14h à la maison des habitants Chorier-Beria.
Ciao, ciao.
Yes, merci beaucoup, à bientôt. Ciao.
À la semaine prochaine.
Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant.
Tous les premiers et troisièmes dimanches du mois,
on vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque au racisme, aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur, pas de l'alu, que de la lutte.
De midi 30 à 14h
sur Kaleidoscope
97 FM
et en podcast
sur letamis.info.